Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, Abdourahmane Dia pour vous présenter cette édition de 17h30 en temps universel. On est vendredi 19 mai 2017 au sommaire. Flambée de violence en Centrafrique, de nouveaux affrontements à Pria dans l'est du pays ont fait 36 morts. Visite du président français Emmanuel Macron à Gao, il promet de poursuivre la lutte contre le terrorisme.
Nous connaissons les défis de court terme et mon souhait est de construire notre action dans le plein respect des accords d'Alger, leur respect intégral, rapide et cohérent.
L'Équateur applaudit la décision de la justice suédoise d'abandonner les poursuites contre Julian Assange, le fondateur de Wikileaks. Les Iraniens aux urnes pour choisir leur président. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. En République centrafricaine, reprise des affrontements ce vendredi entre ex-Seleka et Antibalaka à Pria, c'est dans l'est du pays. Une trentaine de personnes ont été tuées, de nombreuses autres blessées. La situation humanitaire est alarmante, on fait le point avec Freeman Sipila.
Selon des sources locales contactées par VOA Afrique, un calme précaire régnait en début de soirée au centre de la ville malgré la tension encore vive. Des tirs sporadiques se faisaient encore entendre dans certains quartiers. Selon une source religieuse, au moins 36 personnes auraient été tuées et plusieurs dizaines d'autres blessées dans ces affrontements qui ont déjà duré 72 heures. L'église catholique est remplie de déplacés, de même que l'hôpital et le site de PK3, relate un prêtre appelant à l'aide. Selon la communauté humanitaire en Centrafrique, plus de 15 000 déplacés vivent dans des conditions précaires sur le site du PK3, à côté de la base de la MINUSCA et ont besoin d'aide d'urgence. Les affrontements de ce vendredi, qui ont duré plusieurs heures, auraient provoqué le pillage des sièges de certaines ONG humanitaires et l'incendie de dizaines d'habitations. La violence ne résout jamais les problèmes. Dialoguant sur nos différends, a insisté le cardinal Dieudonné Zapalenga, archevêque de Bangui. Brière replongée dans la violence depuis mardi dernier, conséquence d'attaques de la ville de Bangassou dans le sud-est par des antibalas. La MINUSCA a assuré que des dispositions étaient en cours pour faire régner l'ordre. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Nouvelle évasion de prisonniers en République démocratique du Congo. Plusieurs dizaines de détenus se sont échappés d'une prison située au sud-ouest de Kinshasa la nuit dernière, moins de 48 heures après une spectaculaire évasion dans la capitale congolaise. Selon un élu de Kasangoulou, sur les 74 détenus que comptait la vétuste prison de la localité, 68 se sont évadés, 10 d'entre eux ont ensuite été récupérés. Pour sa première visite en Afrique en tant que président de la République française, Emmanuel Macron a choisi Gao pour soutenir les quelques 1600 hommes engagés dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. C'est le président Ibrahim Boubacar Keïta qui est venu l'accueillir à Gao, où nous retrouvons notre correspondant Boubacar Touré.
C'est Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, qui a accueilli le président français Emmanuel Macron, qui a choisi Gao pour sa première sortie officielle en Afrique. Emmanuel Macron, président de la République française.
Ce déplacement, il est la conséquence directe d'un engagement que j'avais pris durant la campagne présidentielle, celle d'aller, dès après mon élection, aux côtés des forces françaises déployées sur le terrain et engagées dans la lutte contre le terrorisme. Et en tant que chef des armées, je suis ici venu aujourd'hui leur rendre hommage et témoigner de ma confiance et de ma détermination.
Par rapport à la lutte contre le terrorisme, la France sera toujours aux côtés du Mali et soutient les accords d'Alger, a affirmé le président Macron.
La détermination de la France sera complète à vos côtés pour la sécurité, non seulement du Mali, mais du Sahel, en continuant l'engagement de nos forces, en continuant à nous engager aussi dans une feuille de route diplomatique et politique à laquelle je tiens tout particulièrement. Et mon souhait est de construire notre action dans le plein respect des accords d'Alger, leur respect intégral, rapide et cohérent.
Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Nous reviendrons sur cette visite d'Emmanuel Macron à Gao dans la partie magazine de cette édition. Au Burkina Faso, plusieurs centaines de personnes ont manifesté devant le palais de justice de Ouagadougou pour réclamer vérité et justice sur l'assassinat de Dabo Bokari, un étudiant burkinabé enlevé et assassiné en 1990. Leader de l'Association nationale des étudiants burkinabés à la pointe des manifestations contre le pouvoir de Blaise Compaoré dans les années 90, Dabo Bokari était étudiant en 7e année de médecine. Il avait été enlevé par des hommes armés et conduit dans les locaux de l'ex-régiment de sécurité présidentielle où il a été torturé à mort. Au Niger, 40 migrants ouest-africains abandonnés par leurs passeurs ont été secourus par l'armée en plein désert. Ces clandestins, dont des femmes, sont des ressortissants de la Gambie, du Nigeria, de la Guinée, du Sénégal et du Niger. Ils voulaient rejoindre la Libye depuis, puis tenter d'entrer en Europe. Si vous ne renoncez pas, vous risquez de périr dans le désert, a mis en garde le ministre nigérien de l'Intérieur, Bazoum Mohamed, qui s'est adressé aux migrants rescapés. Les Béninois n'auront plus besoin de visa pour se rendre au Kenya. L'annonce faite par Nairobi est une mesure de réciprocité. Le chef de l'État du Bénin, Patrice Talon, a en effet décidé en février dernier de supprimer les visas pour les ressortissants de 31 pays, dont le Kenya, pour un séjour de moins de 90 jours dans le pays. L'émissaire de l'ONU en Libye, Martin Kobler, dénonce une attaque meurtrière contre une base militaire dans le sud du pays, contrôlée par les forces du maréchal Khalifa Haftar, un puissant groupe armé de la ville de Misrata, officieusement loyal au gouvernement d'Union nationale, GNA, a mené hier une attaque contre la base aérienne de Bakr al-Shati, contrôlée par l'armée nationale libyenne, autoproclamée par le maréchal Haftar. Une récente rencontre à Abu Dhabi entre le chef du GNA, Faiz al-Sarraj, et le maréchal Haftar a permis un timide rapprochement entre les deux hommes qui ont convenu d'arrêter l'escalade militaire dans le sud du pays.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump entame demain une tournée de 9 jours qui le mènera en Arabie Saoudite, en Israël et au Vatican, qui abrite des lieux saints des 3 religions monothéistes. En Arabie Saoudite, première étape de sa tournée, le président Trump prononcera un discours pour tenter de rassurer ses alliés musulmans sur sa vision de l'islam. Le président soudanais Omar el-Béchir, invité par Riyad, a annoncé qu'il ne prendrait pas part à ce sommet musulman avec Donald Trump. Les Iraniens ont voté massivement et avec enthousiasme aujourd'hui pour élire leur président, un scrutin déterminant pour le sortant Hassan Rouhani et la poursuite de l'ouverture au monde entamée par l'accord nucléaire de 2015 avec les grandes puissances occidentales. Les explications de Salwa Jafari.
À la sortie des bureaux de vote à Téhéran, les électeurs montraient fièrement leurs doigts tachés d'encre indélébile. L'heure est à l'optimisme pour beaucoup d'Iraniens.
Oui, je suis très contente. J'espère qu'on aura ce qu'on mérite à l'issue de ces élections pour la nation iranienne.
Le ministère de l'Intérieur table sur une participation de 72%. Pour cette bataille électorale, le président Rouhani, religieux modéré de 68 ans, affronte Ebrahim Raisi, religieux conservateur de 56 ans, proche du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Raisi se présente comme l'avocat des plus pauvres et veut donner la priorité à l'économie de résistance, axée sur la production et les investissements nationaux. 2 autres candidats sont aussi en lice. Les résultats définitifs sont attendus dimanche au plus tard.
La Russie condamne le bombardement par la coalition menée par les États-Unis d'un convoi lié au régime syrien près de la frontière jordanienne. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov qualifie cet acte d'illégitime. Cela favorise de fait les terroristes, a-t-il indiqué, ajoutant que la Russie n'avait pas été prévenue des frappes de la coalition menée par Washington. L'Équateur a salué ce vendredi la décision de la justice suédoise d'abandonner les poursuites pour viol contre Julian Assange, fondateur de Wikileaks. Le pays appelle le Royaume-Uni à lui fournir une sortie sûre du pays. Les détails avec Eki Abadou.
C'est une bonne nouvelle pour Julian Assange. La justice suédoise a abandonné ses poursuites pour viol contre lui. L'ex-hacker australien s'est aussitôt exprimé sur Twitter. Être détenu pendant 7 ans sans charge, pendant que mes enfants grandissent et que mon nom est traîné dans la boue, je ne pardonne pas et n'oublie pas. Le mandat d'arrêt européen à son encontre n'est plus valide, mais il devra patienter pour retrouver sa liberté de mouvement. Le fondateur de Wikileaks s'est réfugié depuis 5 ans dans l'ambassade d'Équateur à Londres. Le ministre équatorien des Affaires étrangères, Guillaume Long, a fait savoir qu'il attendait du Royaume-Uni une sortie sûre pour Julian Assange. Car même en l'absence de mandat d'arrêt européen, la police britannique a prévenu qu'elle serait obligée d'arrêter l'Australien de 45 ans s'il sortait de l'ambassade équatorienne à Londres. Julian Assange a toujours clamé son innocence et dénonce une manipulation pour le faire extrader vers les États-Unis, où il risque d'être poursuivi pour la publication de documents secrets.
Le gouvernement espagnol invite les autorités de Catalogne à défendre leur projet indépendantiste devant le Parlement plutôt que sur la place publique. Le président de cette puissante région du nord-est de l'Espagne doit présenter lundi une proposition de négociation avec le gouvernement espagnol des termes d'un référendum d'autodétermination dont Madrid ne veut pas. Le gouvernement ne peut pas négocier un référendum que la Constitution ne permet pas, a dit la vice-présidente espagnole. En Turquie, des mandats d'arrêt ont été émis contre le propriétaire et d'autres responsables du journal d'opposition Sokku, dans un climat d'intensification de la répression visant les médias critiques du pouvoir. Ils sont accusés d'avoir des liens avec le mouvement du prédicateur musulman Fethullah Gulen, qu'Ankara accuse d'être derrière le coup d'État avorté de juillet dernier. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle tout de suite dans la Minute Éco, présentée ce soir par Dili Diko.
Au Burkina Faso, la délégation de l'Union européenne confirme son appui au plan national de développement économique et social à hauteur de 524 milliards de francs CFA sur les 5 prochaines années. La contribution européenne dans l'aide reçue par le Faso représente en moyenne plus de 40% de l'aide extérieure. Cette aide est axée autour des secteurs de la gouvernance, de la santé, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de l'agriculture et de l'eau. La Banque mondiale examine un nouveau cadre de partenariat avec le Togo. C'est la première stratégie de moyen terme élaborée par l'organisation pour le pays depuis le réengagement de l'Association internationale pour le développement, IDA, en 2008. D'ici 2020, l'aide de l'IDA pourrait être doublée pour atteindre plus de 350 millions de dollars. Performance du secteur privé et création d'emplois sont parmi les principaux objectifs de cette aide. Les jeunes entrepreneurs algériens redoublent d'intérêt pour l'Afrique subsaharienne, selon le magazine Jeune Afrique. Lors de la 5e édition du sommet Choiseul à Alger, 150 chefs d'entreprise africains ont rencontré et échangé avec quelques 200 entrepreneurs algériens. Avec l'érosion de la manne pétrolière, les autorités algériennes cherchent à attirer des investisseurs africains.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
On démarre par la contestation du classement final du championnat de football en Tunisie.
Le club de l'étoile sportive du Sahel a saisi le tribunal arbitral du sport pour contester le classement final du championnat de Tunisie remporté par l'Espérance de Tunis. Le club demande au TAS d'annuler la décision rendue par la Commission nationale d'appel de la Fédération tunisienne et de prononcer la victoire de l'étoile sportive du Sahel dans la rencontre pourtant perdue sur le terrain contre le club sportif sfaxien. C'était le 1er mars dernier. Cette rencontre fut marquée par divers incidents, explique le TAS qui a été saisi hier. On rappelle que l'Espérance sportive de Tunis a glané son 27e titre de champion hier en dominant 3-0 l'étoile du Sahel, le tenant du trophée.
Reprise des championnats béninois de football le 8 juillet prochain.
Le comité de gestion de la Fédération béninoise de football, installé par le ministre des Sports, annonce la reprise du championnat pour le mois de juillet, mettant fin à la crise qui secouait le sport roi dans ce pays depuis quelque temps. Le président de la Fédération béninoise de football, Enjorin Moucharafou, a, au cours d'une conférence de presse, apporté quelques précisions sur le sponsor qui va désormais accompagner les championnats béninois.
Pogba de retour dimanche avec Manchester.
Le milieu de terrain vedette de Manchester United, Paul Pogba, jouera dimanche lors de la dernière journée de la Premier League contre Crystal Palace. C'est ce qu'annonce José Mourinho, son entraîneur. Le joueur de 24 ans n'a pas participé aux deux derniers matchs de son équipe en raison du décès puis des funérailles de son père. Fassou Antoine Pogba est décédé vendredi dernier des suites d'une longue maladie.
Et on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
La superstar de Cleveland, LeBron James, se figure dans l'équipe type de la saison 2016-2017, et ce pour la 11e fois de sa carrière, égalant ainsi le record détenu notamment par Kobe Bryant. C'est ce qu'annonce la NBA. James, qui dispute à 32 ans sa 14e saison NBA, a été plébiscité par 99 journalistes spécialistes. Le triple champion NBA est le troisième joueur après Kobe Bryant et Karl Malone à être sélectionné dans le 5 majeur de la saison 11 fois. À suivre cette nuit, le deuxième match entre Boston et Cleveland pour la finale de la conférence Est.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Le président français Emmanuel Macron est arrivé au Mali pour son premier déplacement en Afrique et c'est à Gao, dans le nord du pays, qu'il s'est rendu pour rencontrer les soldats français engagés dans la lutte contre le terrorisme. Le nouveau locataire de l'Élysée a dit que la France continuerait avec ses efforts militaires au Mali et aiderait le pays dans le cadre de l'application de l'accord d'Alger en 2015. Les détails avec Kassim Traoré.
C'est la plus importante base des forces françaises engagées à l'extérieur qu'Emmanuel Macron a visitée à Gao. Dès son atterrissage, il a été accueilli par le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, avec lequel il s'est entretenu pendant 45 minutes avant de tenir un point de presse conjoint. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali.
Des accords ont été signés. Une conférence d'entente nationale a eu lieu, que nous considérons comme un train en marche, et qui avance, et qui doit continuer d'avancer. Notre désarroi découle de ce que la route est longue. Elle est souvent semée d'embûches, avec parfois une multitude de mauvaises volontés, et que nous ne pouvons dire quel jour et à quelle heure nous arriverons. Mais nous avançons, soyez-en certains, et nous y arriverons.
Le nouveau président français a renouvelé l'engagement de la France aux côtés du Mali, mais ça sera dans le cadre du strict respect de l'accord issu du processus d'Alger en 2015. Emmanuel Macron, président de la France.
La détermination de la France sera complète à vos côtés pour la sécurité, non seulement du Mali, mais du Sahel, en continuant l'engagement de nos forces, côté desquelles je me retrouverai en continuant à nous engager aussi dans une feuille de route diplomatique et politique à laquelle je tiens tout particulièrement. Parce que ces combats sont bien menés lorsqu'ils s'inscrivent dans une perspective de construction de la paix et de sécurité. Nous connaissons les défis de court terme et mon souhait est de construire notre action dans le plein respect des accords d'Alger, leur respect intégral, rapide et cohérent.
Sur la situation de la région de Kidal qui échappe au contrôle des autorités maliennes, la France restera dans le cadre de la MINUSMA.
La MINUSMA et les forces présente aujourd'hui travaille et depuis des mois et des années pour justement la restauration de la souveraineté en province du Kidal et pour que tout soit rétabli. Et depuis le début, avec une grande détermination, et je parle pour le passé, ce n'était pas dans les responsabilités que j'occupe aujourd'hui, je veux ici être très clair à l'égard de toutes les rumeurs ou les bruits qu'il y a pu avoir sur ce sujet. La France et la MINUSMA travaillent dans ce sens, dans cette direction, avec un engagement complet de nos forces depuis le début. Plus largement, pour le Mali, la France continuera l'engagement militaire qui est le sien.
Après la conférence de presse, le président français a visité l'unité de Barkhane avant un briefing à huis clos avec le commandant des forces Barkhane et Sabre, la force spéciale française, honorable Karim Keïta, président de la commission défense nationale à l'Assemblée nationale du Mali.
Je me réjouis de cette visite, elle a plusieurs portées. Le président Macron a été investi seulement dimanche. Sa première sortie hors d'Europe, terre africaine, c'est au Mali. Certes, il est venu pour voir les troupes françaises, mais il est aussi venu apporter un mot d'amitié pour le peuple malien. Et vous savez, le président de la République malienne l'a rappelé, il a dit plusieurs fois, nous avons gagné un pacte de sang avec la France. Et c'est bien que le président Macron ait choisi d'être dans la continuité de ce que le président François Hollande, à qui je rends d'ailleurs hommage, a amorcé ici au Mali.
Le président français, avant de quitter Gao, a volé en hélicoptère pendant un quart d'heure au-dessus de la ville de Gao et du boucle du Niger pour voir les conditions tactiques de combat. Ensuite, Emmanuel Macron a déjeuné au milieu des soldats français à Gao avec lesquels il a échangé. Gao, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24 heures sur 24.
Au Togo, le village de Tangbaré, situé à 632 km au nord de la capitale Lomé, est traversé par une rivière qui sert de source d'approvisionnement en eau à la population. Notre correspondante au Togo s'y est rendue et découvre une localité qui souffre d'un problème d'accès à l'eau potable. C'est un reportage de Kay Larson.
À 12 km à l'est de Dapaon se situe le village de Tangbaré. Comme d'autres villages togolais, Tangbaré ne dispose pas d'une source d'eau potable. Le seul cours d'eau qui traverse le village est utilisé pour des besoins divers. À l'entrée du village, la rivière de Babona, Dagbieng, élève en classe de 4e, est venu faire sa lessive.
Pour avoir l'eau, nous allons dans le marigot. Pour marcher, aller dans le marigot, nous faisons 10 minutes pour aller et retourner 10 minutes.
Nous sommes dans le lit de la rivière Babona. C'est ici que la population du village de Tangbaré vient s'approvisionner en eau. Paul Diatani, la cinquantaine, habite dans le canton de Taliban. Après avoir fini de faire sa lessive, elle creuse un trou dans le lit de la rivière et recueille de l'eau pour son ménage. On essaie de creuser pour avoir de l'eau potable. L'eau qui coule est consommée par les animaux. Les gens piétinent dedans. C'est pour cela que nous creusons à d'autres endroits pour filtrer l'eau afin de la prendre. L'eau que nous venons chercher dans ce marigot, nous ne la traitons pas avant de la boire. On n'a pas le choix. On se contente de ça. Disposer d'un forêt ferait un grand bien à cette population, nous dit Azuma Sambiana. Il vit à Tangbaré.
Non, chez nous ici, il n'y en a pas de forage à côté de nous. Nous sommes loin de la forêt. C'est dans les marigots toujours qu'on puisse pour boire. Bon, le plus proche forage de notre village, bon, il nous faut 5 km. Nous avons besoin de l'eau potable. Si le gouvernement pouvait nous aider à avoir les forages.
L'autre souhait de la population de Tangbaré est que leur village soit doté d'un pont. En période de crue, les habitants du canton de Babona à l'ouest et ceux de Taliban à l'est se retrouvent coupés pendant des mois. Kailosson, Tangbaré, pour VOA Afrique.
Le président Donald Trump débute ce vendredi sa première tournée diplomatique à l'étranger qu'il mènera dès demain en Arabie Saoudite, puis en Israël et en Cisjordanie, ensuite au Vatican, à Bruxelles, enfin en Sicile pour le sommet du G7. Des étapes minutieusement choisies et qui produiront des images fortes en symbolisme, selon Richard S. Conley, il est professeur de sciences politiques à l'Université de Floride. On l'écoute.
Bien sûr, il y a du symbolisme là-dedans, mais à mon avis, la Maison Blanche a la tendance de planifier ces sortes de trajets d'avance. Cela n'est pas une chose qui est émergée soudainement.
Une tournée qui démarre par l'Arabie Saoudite, monarchie sunnite. Faut-il voir un message à l'Iran chiite, accusé par Riyad d'être l'acteur direct ou l'instigateur indirect de tous les conflits de la région?
C'est intéressant parce que Trump, sur la campagne, il a fait savoir qu'il voulait déchirer l'accord entre l'Iran et la communauté internationale. Maintenant, on n'a pas beaucoup entendu du président en ce regard. Donc oui, je pense que symboliquement, de faire des contacts avec la royaume et ses leaders, c'est important. Mais la question, c'est que est-ce que l'Iran et les moulas vont entendre? Ils n'ont pas du tout d'amour pour les États-Unis ni pour le royaume. Donc l'effet est assez inconnu en ce moment.
Donald Trump est le président de l'Amérique d'abord, America First. Après la méfiance mondiale à son égard, ce périple est-il l'occasion pour le président de rassurer les alliés américains?
Oui, bien sûr. Vous savez, il y avait beaucoup de rhétorique pendant la campagne et on voit dans ses premiers 6 mois de sa présidence qu'il a dû reculer pas mal. En regard la Chine, par exemple, et le menace de Kim Jong-un, c'est pour des missiles balistiques, nous avons beaucoup d'autres situations comme l'OTAN où il a dit non, maintenant c'est désuet, mais non, j'avais tort. Donc je pense que ça peut rendre peut-être un peu de stabilité. Trump a la tendance de pouvoir forger des relations positives avec les dirigeants d'autres pays comme Xi Jinping, donc on va voir.
En pleine tourmente politique aux États-Unis, le président pourra-t-il tabler sur ce déplacement pour faire oublier les affaires qui ne cessent d'agiter Washington?
Oui, un peu. Les investigations, les enquêtes au Congrès vont continuer. On ne sait vraiment pas ce qui s'est passé entre ces conversations avec le directeur du FBI. Tout est basé, je pense, sur un article de New York Times. Pour le président, quand il embarque sur des voyages à l'étranger, cela a la tendance de rendre l'office du président symboliquement symbole de l'unité des États-Unis, etc. Donc cela crée des opportunités pour des photos, etc., qui sont en balance très positives pour lui, ou n'importe quel président.
C'était Richard S. Conley, professeur de sciences politiques à l'Université de Floride.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Malgré d'importants atouts, notamment l'étendue de son marché, le film africain a toujours du mal à s'imposer sur la scène mondiale. Sa faible représentation au Festival de Cannes de cette année en témoigne. Pour Cheikh Oumar Sissoko, cinéaste et secrétaire général de la Fédération panafricaine des cinéastes, la mise en place prochaine de la Commission africaine pour le cinéma et l'audiovisuel pour l'Union africaine aidera à l'émergence d'une véritable industrie cinématographique sur le continent. Il est joint à Bamako par Arzuma Compaoré.
Le Festival de Cannes est assez fermé pour le cinéma africain. C'est pour ça que nous travaillons à ce qu'il puisse y avoir une véritable industrie avec une formation de haut niveau comme en Amérique, comme en France, en Europe et en Asie. Parce que le Festival de Cannes est un festival qui permet la distribution de tous les films qui sont en sélection officielle. Nous l'avons vu avec nos rares films qui sont déjà passés. Ils ont eu donc une très bonne distribution. En réalité, il faut que nous arrivions à faire une structuration de l'économie du cinéma, c'est-à-dire professionnaliser le secteur et arriver vraiment donc à produire des films que nous allons pouvoir diffuser avec les 800 millions d'habitants du continent. Hollywood y arrive aujourd'hui et Hollywood, c'est 1 million d'emplois, c'est 535 millions de dollars US par an et les études prouvent qu'ils peuvent monter jusqu'à 1800 millions de dollars US par an.
Hollywood n'a pas attendu la Banque mondiale pour se développer.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Les cinéastes nigériens ont eu vraiment beaucoup d'intelligence vraiment pour développer leur provenance à l'intérieur. Le grand problème, c'est que le marché existe et nous n'arrivons pas à l'élargir. La Fédération panafricaine des cinéastes va être à New York le 7 juin pour signer un accord de partenariat. Les trois signataires seront la directrice générale de l'UNESCO, Martin Scorsese de la Film Foundation et Cheikh Oumar Sissoko de la FEPAC. C'est un programme qui porte la restauration donc, des films africains. Et déjà, un des 50 films de ce premier programme a déjà été restauré par la Film Foundation et va être présenté le 22 mai au Festival de Cannes. Le principal programme ensuite a été au niveau de l'Union africaine, avec la création de la Commission africaine pour le cinéma et l'audiovisuel. Le troisième programme, c'est la construction de 5 centres d'excellence technique en technologie avec des ressources humaines pour la formation, la production, la post-production et la distribution dans chacune des 5 régions du continent. Tout cinéma vraiment doit donner vraiment sur le plan technique, sur le plan esthétique, vraiment donc le meilleur de lui-même pour qu'il puisse y avoir vraiment une écriture cinématographique africaine qui puisse permettre donc à nos civilisations africaines donc de s'imposer parce qu'elles portent des valeurs universelles. Un festival comme le Festival de Cannes doit pouvoir permettre l'émergence donc du cinéma africain, une reconnaissance vraiment donc de la qualité de nos films et un plus grand intérêt des grands producteurs du monde entier, des grandes chaînes de télévision et aussi donc des grands distributeurs. Et Cannes peut permettre cette ouverture-là.
C'était le cinéaste malien Cheikh Oumar Sissoko, joint à Bamako par Arzuma Compaoré.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Georges Léonard Sagnot, à la console Sidrak Franklin et la présentation Abdelrahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wenpanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.